L'essentiel sur Bel RTL.
Et nous en venons à nos invités. On commence avec vous, François Dubuisson. Actualité directe oblige. Hein. Alors, première question, cette demande de reconnaissance d'un État palestinien, est-ce vraiment un fait important ?
Oui, à mon avis, ça me semble un fait tout à fait important, puisque l'objectif qui est poursuivi par la Palestine, c'est de modifier totalement les paramètres de la question palestinienne. Jusqu'à présent, il s'agissait de faire confiance à la fois aux tuteurs américains et européens et d'espérer qu'une négociation puisse se nouer avec Israël. Et là, ils ont décidé de multilatéraliser la question en la posant devant les Nations Unies et de demander la reconnaissance en tant qu'État. Et donc de ne plus attendre l'aboutissement de négociations avec Israël pour se proclamer un État, mais bien le faire d'ores et déjà.
Alors cette demande n'a aucune chance d'aboutir. Les États-Unis ont annoncé qu'ils y mettraient leur veto. On écoute à ce propos Amin Aïchalal, professeur de relations internationales à l'UCL.
La tentative en elle-même au niveau du Conseil de sécurité, comme vous l'indiquiez, n'a pas de chance d'aboutir. Mais la tentative, on le voit bien dans la couverture qui est faite dans les médias, y compris sur Bel RTL, dans l'actualité internationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Peut-être qu'un certain nombre de vos auditeurs et auditrices suivaient les activités de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais je ne pense pas que c'était une habitude très courante. Et ceci dit, cette question est revenue au centre de l'actualité internationale et au centre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et rien que pour cela, cette tentative a au moins le mérite de réouvrir les perspectives et de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Les États-Unis, l'Union européenne, les Palestiniens, les Israéliens, les protagonistes locaux, régionaux et internationaux. Et donc, dans ce cadre-là, remettre la question israélo-palestinienne au centre des débats internationaux, après 10 ans de stagnation, de marasme et de blocage, c'est plutôt un élément positif.
François Dubuisson, vous êtes d'accord avec cette analyse d'Amin Aïchalal ?
Oui, concernant en tout cas l'admission de la Palestine aux Nations Unies directement, et donc le passage par le Conseil de sécurité, effectivement, avec le veto américain annoncé, ça va sans doute s'arrêter là.
Voilà.
Mais il y a un plan B, en réalité, que la Palestine a déjà envisagé.
Une sorte de demi-reconnaissance, on peut le dire comme ça ?
C'est ça. Pas vraiment. En réalité, il faut bien distinguer deux choses. C'est la reconnaissance en tant qu'État. Et à mon avis, c'est ça le point essentiel.
Mais ça ne sera pas possible.
Si, ce sera possible. Oui. Ce sera possible devant l'Assemblée générale. C'est-à-dire que même si l'Assemblée générale, elle, donne un statut d'État observateur à la Palestine, ce qui est important, c'est que par là, elle la reconnaît déjà en tant qu'État. Même si elle n'est pas encore membre des Nations Unies, ça consiste à dire d'ores et déjà la Palestine est un État. Et elle est un État dans certaines frontières qui sont ce qu'on appelle les lignes de 1967, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem.
Un État non membre, en quelque sorte.
C'est ça. Donc finalement, cet élément-là est relativement accessoire quant à savoir si tout de suite il sera membre des Nations Unies ou pas.
Mais c'est vraiment, effectivement, une occasion, une nouvelle occasion de parler du problème, de parler du problème palestinien.
Oui, également, effectivement.
Il est de nouveau à la une de l'actualité.
Exactement. Mais comme on le voit cette semaine, effectivement, beaucoup de médias en ont parlé, alors qu'on n'en parlait plus tellement ces derniers temps, depuis maintenant un an que le processus de négociation est totalement bloqué suite au refus de Benjamin Netanyahou de prolonger le moratoire de la colonisation sur la Cisjordanie, qui était un préalable exigé par les Palestiniens. Et donc on n'en parlait plus depuis ce temps-là, et là effectivement ça remet à la fois la question au devant de l'actualité, et surtout ça oblige les grands États, en particulier les États-Unis, les Nations Unies, l'Union européenne, à nouveau se saisir de la question et trouver des solutions.
Alors, c'est une manière pour les Palestiniens de passer aussi au-dessus des négociations de paix qui sont au point mort depuis des années.
Exactement. Donc, un bref rappel, les accords d'Oslo qui prévoyaient des négociations qui devaient aboutir à un statut final prévoyaient comme date butoir le mai 1999. Donc on voit que c'est clairement dépassé.
On est en septembre 2011, il n'y a toujours rien de plus.
Exactement. Et la feuille de route qui avait été adoptée en 2003 pour relancer le processus de négociation prévoyait un État palestinien pour 2005. Donc là aussi, c'est dépassé depuis 6 ans. Et donc, les Palestiniens se rendent bien entendu compte que, au fur et à mesure que le temps passe, Israël en profite pour prendre des mesures unilatérales, poursuivre la colonisation, poursuivre la construction du mur. Et plus on attend, plus un État palestinien devient difficile à établir dans la réalité des choses.
Est-ce que ça ne risque pas de compliquer encore plus les choses, de braquer peut-être encore davantage Israël ?
Alors, il faut bien préciser que le fait que l'on reconnaisse l'existence d'un État palestinien n'est pas du tout exclusif de la tenue de négociations. Mmh. Simplement, ça change un petit peu les paramètres. Ce serait une négociation d'État à État et non plus de territoire occupé à État. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne modifie pas fondamentalement les choses. Il y a encore des tas de questions qui ne pourront se résoudre que par la négociation. Mmh. Simplement, Israël n'aime pas trop ces démarches, comme on l'a bien compris.
Oui.
Mais finalement, ça ne change rien à sa position. Je dirais, Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu'il n'était toujours pas prêt à suspendre la colonisation. Finalement, les lignes ne bougent pas beaucoup de leur point de vue. Mais on peut espérer que ça fasse bouger les lignes du point de vue d'autres acteurs importants.
Alors, un État palestinien... pour l'instant, il n'y a pas de territoire homogène. Il y a d'une part Gaza, puis il y a d'autre part la Cisjordanie, Jérusalem-Est aussi revendiqué par les Palestiniens. Est-ce qu'on peut quand même parler éventuellement de l'existence d'un État malgré tout, malgré ce morcellement?
Alors effectivement, ce serait un État occupé, puisque une bonne partie de son territoire est sous occupation israélienne, voire annexion israélienne pour Jérusalem-Est. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse être reconnu comme État, étant donné qu'il a quand même des institutions, un gouvernement, une police, une justice, etc. Et des institutions internationales comme la Banque mondiale ou un comité des Nations unies a reconnu que la Palestine avait toutes les institutions adéquates pour être un État déjà. Donc ce qui l'empêche de l'être, c'est l'occupation israélienne. Donc la reconnaissance est simplement aussi un coup de pouce qui lui permettrait d'avoir des éléments supplémentaires, notamment également sur le plan juridique, d'avoir des éléments supplémentaires qui permettraient de mettre fin à l'occupation.
On marque une petite pause avant de continuer l'essentiel, ce débat.
L'essentiel.
19h-20h.
Philippe Calais sur Bel RTL.
L'essentiel consacré notamment ce soir à cette demande de reconnaissance d'un État palestinien devant les Nations Unies. Nous avons comme invité François Dubuisson, professeur au Centre de droit international de l'ULB. Alors comment qualifier l'attitude des États-Unis? Donc Barack Obama a annoncé que les États-Unis mettront leur veto à la reconnaissance d'un État palestinien. C'est dans la perspective des élections présidentielles américaines de 2012?
Ben, probablement, ça joue effectivement une part importante dans la position d'Obama, qui ne peut pas prendre de risques et aller à l'encontre finalement de la tradition américaine d'être très étroitement lié aux intérêts d'Israël, de très souvent suivre finalement la volonté israélienne.
Les États-Unis ont toujours été un soutien inconditionnel à l'État hébreu.
Voilà, c'est-à-dire c'est vraiment leur grand allié dans la région et donc ils sont très souvent liés très étroitement à leur politique. Et donc là, il n'y a pas de surprise, de grande surprise véritable. Alors effectivement, il y a un an, Barack Obama, à l'Assemblée générale des Nations unies, avait annoncé espérer l'admission d'un État palestinien pour l'an prochain, mais il avait quand même précisé que ce serait le fruit d'un accord avec Israël. Donc finalement, il reste cohérent avec les positions qu'il a eues, puisqu'il dit qu'il faut négocier et que l'État palestinien ne pourra que suivre un accord avec Israël. Simplement, on attendait peut-être plus de Barack Obama, qui n'a pas mis beaucoup de pression sur Israël, notamment pour cette question du gel de la colonisation.
Et l'attitude de l'Europe, elle est très attentiste?
Mais comme toujours, l'Europe est divisée. On a 27 États membres qui ont des profils finalement assez différents. Donc il est toujours très difficile de trouver un consensus, et spécialement sur la question d'Israël. Et donc, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a souvent une contradiction au sein de l'Europe entre des positions de principe qui sont affichées. Ils reconnaissent le droit à un État palestinien. Ils critiquent et condamnent les mesures unilatérales israéliennes. Ils l'ont qualifié vraiment d'obstacle fondamental à la paix ou d'élément qui empêcherait l'avènement d'un État palestinien. Ils ont soutenu le Premier ministre palestinien lorsqu'il mettait en œuvre un plan qui visait à mettre fin à l'occupation et à créer un État. Donc c'était bien annoncé. Et puis au moment où il s'agit de voter la reconnaissance, là ils sont divisés et on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'un certain nombre d'entre eux s'abstiennent ou voire votent contre cette reconnaissance.
Alors nous avons en ligne Pascal Zonzin, journaliste, juriste, correspondante en Israël pour plusieurs médias français. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors quel est le sentiment des Israéliens quant à cette demande de reconnaissance devant l'ONU d'un État palestinien?
Le sentiment, pour l'instant, c'est à la fois l'inquiétude et la confusion. L'inquiétude parce qu'on espérait jusqu'à la dernière minute que Mahmoud Abbas accepterait une des tentatives de médiation du quartet des États-Unis, de l'Europe ou même du président français Nicolas Sarkozy. et que finalement aucune de ces tentatives n'a abouti. Confusion parce que maintenant que le processus est lancé, celui de la candidature officielle déposée d'adhésion de la Palestine auprès du Conseil de sécurité, bien maintenant il faut savoir techniquement comment les choses vont se passer dans le cadre des organisations des institutions de l'ONU. Avec effectivement soit une réponse positive à l'appel de Mahmoud Abbas au secrétaire général et au Conseil de sécurité d'agir extrêmement rapidement pour soumettre au vote la demande palestinienne, ou bien une procédure qui pourrait traîner en longueur et qui permettrait pendant ce temps intermédiaire d'essayer à nouveau de relancer les négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Donc pour l'instant, on est effectivement dans cette attente, l'attente aussi d'ailleurs du discours du Premier ministre israélien qui doit intervenir dans quelques minutes.
Alors, il y a certains sondages qui montreraient qu'une majorité d'Israéliens aujourd'hui serait en faveur d'une reconnaissance d'un État palestinien par Israël, du moins si l'adhésion à l'ONU était entérinée. Vous nous le confirmez ?
Sur le fond et sur le principe de la création de l'État palestinien, c'est quelque chose qui est acté par les Israéliens depuis déjà longtemps. Toute la différence se place évidemment sur la question de savoir est-ce que ça se fait à travers une négociation ou est-ce que ça se fait à travers une déclaration. Pour les Israéliens, il est évident que c'est la négociation qui a la préférence, même si évidemment tout le monde n'est pas d'accord avec la position présentée par Benjamin Netanyahu.
Mais les négociations sont gelées depuis des années et des années.
Les négociations sont gelées depuis réellement en fait depuis 2 ans et demi, depuis l'arrivée au pouvoir du Likoud, du parti de Netanyahou, enfin de sa coalition en tout cas. Et effectivement, la seule tentative pendant son mandat, qui remonte à 1 an, a duré en tout et pour tout 1 semaine. Donc effectivement, ces négociations gelées, ça suscite aussi de la frustration et de l'inquiétude, pas seulement du côté palestinien, mais aussi du côté israélien.
Est-ce que Israël, ou du moins les Israéliens, ont toujours le sentiment, notamment qu'avec la présence du Hamas, il y aura toujours une menace, un sentiment qui est toujours très présent?
C'est effectivement un des éléments, une des composantes de cette inquiétude, c'est qu'on ne comprend pas très bien qui on a en face. Cet État palestinien que Mahmoud Abbas a appelé de ses voeux et pour lequel il a vraiment fait aujourd'hui une demande formelle, il représente quoi en termes de pouvoir, en termes de géographie, en termes de population? Tant que les choses, le différend et le conflit en réalité ouvert n'est pas réglé entre le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, et le Hamas, le parti islamiste palestinien, on a du mal à voir effectivement comment une négociation pourrait être pérenne et durable entre Israël et l'autorité palestinienne ou l'État à venir.
Merci beaucoup, Pascal Zonzin, d'avoir été avec nous depuis Tel Aviv ce soir. Merci beaucoup. C'est aussi votre opinion, cette division palestinienne entre d'une part le Hamas et d'autre part l'autorité palestinienne, entre d'une part la situation à Gaza, de l'autre celle en Cisjordanie, qui sont bien différentes.
Oui, mais ce qu'il faut souligner, c'est que la demande d'adhésion aux Nations Unies a été précédée par un accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Alors cet accord n'a pas encore été pleinement mis en œuvre puisqu'un gouvernement d'union nationale n'a pas encore pu être formé. Mais enfin, en Belgique, on est bien placé pour savoir que ça peut prendre
pas mal de temps.
Un certain temps. Et sans doute que cette formation va être postposée justement après la procédure des Nations Unies. Donc ça a été un petit peu suspendu du fait de cette procédure. Le Hamas voulant, à mon sens, rester sans doute un petit peu en retrait par rapport à cela, ne voulant pas trop s'impliquer dans cette procédure, il est un petit peu attentif, il n'a pas critiqué trop vertement cette démarche, tout en ne l'approuvant pas pleinement non plus, parce que le Hamas a du mal à accepter tout à fait officiellement que la reconnaissance de l'État palestinien ne se fasse que sur les lignes de 1967, mais on sait bien qu'en pratique, il est prêt à accepter un compromis. Donc si cette démarche avait des effets positifs, on sait très bien que le Hamas n'a d'ailleurs pas les moyens d'aller à l'encontre d'un accord qui pourrait apporter finalement une cessation de l'occupation.
On marque une nouvelle pause avant l'explication de Bernard Lobet. Bernard qui nous expliquera ce qu'est exactement finalement un État.
19h-20h, l'essentiel, Philippe Calais.
Bernard Lobet, bonsoir.
Bonsoir.
La Palestine demande à être reconnue comme État devant l'ONU. Alors Bernard, tout d'abord cette question, simple en apparence du moins, qu'est-ce qu'un État ?
Eh bien, c'est une entité politique. L'origine du mot évoque un équilibre durable. État, du latin stare, se tenir debout, qui aboutit aussi à stable. C'est ce que recherchent sans doute les Palestiniens. Il y a pléthore de définitions de l'État, disons alors que c'est un groupement d'individus établis sur un territoire sous l'autorité d'un gouvernement.
Quelle est la différence entre un État, un pays et une nation ?
Eh bien, un pays, c'est une notion géographique, un territoire déterminé avec des frontières, bien sûr. Une nation désigne ceux qui sont nés, quelque part, et un État désigne les institutions qui fonctionnent sur un territoire. Mais évidemment, pour corser la chose, ce qu'on appelle les Nations Unies réunissent des États. Certains pays sont des États-nations, par exemple la France, où une nation en particulier domine, alors que la Chine, par exemple l'Espagne ou le Royaume-Uni rassemblent plusieurs nations. Vous avez aussi l'État dans l'État. Dans ce cas, l'État fédéral et l'État fédéré, ça vous dit quelque chose peut-être, en Belgique, se partagent des compétences sur le territoire et la population qu'ils gouvernent ensemble. Exemple, les cantons suisses, les provinces canadiennes ou encore les Länder allemands.
Ouais, un peu comme en Belgique donc.
Restons à l'étranger si vous voulez bien pour dire un mot de la souveraineté.
Oui, les Palestiniens sont en recherche précisément de souveraineté. Non ?
Oui, un État souverain gère un territoire politiquement indépendant avec ses propres gouvernements, administrations, lois et armées. Pas une colonie autrement dit, mais la souveraineté peut être limitée par les traités ou encore plus banalement par le simple jeu de la mondialisation.
Alors question subsidiaire, comment un État peut-il se faire reconnaître par l'ONU ?
Eh bien les Nations Unies, figurez-vous, ne créent pas d'État. La reconnaissance d'un nouvel État ou d'un nouveau gouvernement est un acte que seuls les autres États et gouvernements peuvent accomplir. L'ONU, n'étant ni un État ni un gouvernement, n'est pas habilité à reconnaître un État ou un gouvernement. Autrement dit, être membre des Nations Unies n'est pas une condition pour la reconnaissance d'un État. Chaque État choisit de considérer ou non la Palestine, en l'occurrence, comme un État. Sur les 193 membres de l'ONU, 117 ont déjà reconnu la Palestine, qui se présente aux Nations Unies, en fait, pour plus de légitimité, pour augmenter son poids international.
Dernière question, quel serait l'intérêt pour la Palestine de devenir un État non membre de l'ONU, une possibilité évoquée par Nicolas Sarkozy.
D'abord, ce statut n'existe pas vraiment, figurez-vous, il est basé sur la pratique. Le seul État non membre au sein des Nations Unies actuellement est le Vatican. La Suisse avait aussi ce statut jusqu'en 2002. Avantage, il ne faut qu'un vote de l'Assemblée Générale à la majorité simple. Un État non membre a tous les droits d'un membre, sauf celui de voter et de présenter des candidats. Si la Palestine obtient ce statut, elle pourrait intégrer diverses conventions internationales, signer des traités internationaux. Elle aurait à sa disposition en quelque sorte de nouveaux outils. Cela veut dire aussi pour la Palestine l'obligation de faire respecter les droits de l'homme sur son propre territoire.
Merci beaucoup Bernard. La Palestine aux côtés du Vatican, ça peut paraître assez surprenant, non ?
Oui, mais donc c'est au-delà effectivement de caractère un petit peu incongru de la chose. Ce serait à la fois l'aspect symbolique d'être reconnu comme État, mais aussi l'aspect juridique, comme il a été dit, ça donne toute une série de moyens supplémentaires à la Palestine. Elle peut intégrer toute une série d'organisations internationales au sein duquel un droit de veto n'existe pas, comme aux Nations Unies. Et puis elle pourrait par exemple adhérer au statut de la Cour pénale internationale qui prévoit toute une série d'incriminations qui seraient susceptibles de viser certaines pratiques israéliennes.
Alors, question finale, verra-t-on un jour deux États côte à côte, l'État israélien, l'État palestinien ? On va d'abord écouter l'avis d'Amin Aïchalal.
Pour ce qui est de la prédiction, je resterai très prudent sur les modalités du futur. Et en termes de prévisibilité, comme disait le général de Gaulle, il ne faut pas insulter l'avenir. Ceci dit, si l'on reprend tous les termes de ce qu'on peut appeler la légalité internationale, c'est-à-dire les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, et il y en a beaucoup qui ont été votées au Conseil de sécurité sur la question israélo-palestinienne, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de juillet 2004 qui demande le démantèlement du mur de séparation en Cisjordanie, et tous les plans de paix qui ont été élaborés depuis 1993, 93 étant la date où en septembre à Washington a été signé un premier accord entre Israéliens et Palestiniens, et toutes les initiatives, effectivement, sont basées sur l'idée de deux États vivant côte à côte, Israël et la Palestine, avec Jérusalem pour capitale, et avec des arrangements pour toutes les questions litigieuses, et toutes les questions qui sont en discussion, la question des colonies israéliennes en Cisjordanie, la question des réfugiés, la question du développement économique. Mais pour cela, il faut une forme de courage politique, et il faut peut-être rappeler, malgré tout, au regard du marasme et du désastre actuel, que pendant deux ans, de 1993 à novembre 1995, c'est-à-dire l'assassinat du premier ministre Rabin par un extrémiste israélien, la paix progressait. C'est depuis cette date-là, depuis 96, d'ailleurs 96, élection de M. Netanyahou, le même qu'aujourd'hui, a pour la première fois en tant que premier ministre, c'est depuis 96 que le processus s'est effondré. Et il faut bien reconnaître aussi que les 8 années de l'administration de M. Bush, c'est-à-dire de 2001 à 2009, de début 2001 à début 2009, ont été tout à fait désastreuses, pas que pour la question israélo-palestinienne, mais notamment pour cette question, et on peut rajouter évidemment l'Irak, l'Afghanistan, etc.
Alors, un État israélien, un État palestinien côte à côte, vous êtes optimiste, pessimiste, François Dubuisson ?
Alors, c'est difficile d'être optimiste vu la longueur du conflit et le fait qu'il soit toujours pas résolu. Mais sans doute que cette démarche aux Nations Unies pourrait être un élément important. Ça permettrait quand même la reconnaissance d'un État qui pourrait donc s'affirmer sur la scène internationale en tant que tel, même si sur le terrain, évidemment, ça ne changerait pas fondamentalement la situation. Et pour qu'on puisse avoir deux États vivants en paix et en harmonie, là, il faudra forcément passer par des négociations à un moment donné. Mais donc cette étape de passage par la reconnaissance d'un État n'est qu'un élément qui permettrait normalement de repasser à la négociation sur des bases peut-être un peu plus favorables du côté palestinien.
C'est ça. Si la majorité au pouvoir change en Israël, les élections l'année prochaine, je pense, en 2013, si les travaillistes, par exemple, arrivent au pouvoir, ça pourrait vraiment changer quelque chose ?
C'est-à-dire qu'en tout cas, avec la coalition de M. Netanyahou et du parti d'Avigdor Lieberman, on a vraiment le gouvernement le plus ultranationaliste qu'on ait eu depuis...
Et c'est la droite, la super droite, la plus dure. Ça, voilà.
Alors, les derniers gouvernements avec une composante travailliste n'ont pas forcément été beaucoup plus efficaces. Mais c'est clair que sans un changement de personnel politique et d'orientation politique du gouvernement israélien, ce sera difficile d'avoir des avancées.
Merci beaucoup François Dubuisson pour avoir été avec nous en studio ce soir. Dans un instant, Marc Roche, journaliste belge, on parlera avec lui du monde infernal du capitalisme débridé.
19h-20h, l'essentiel, Philippe Calais.